Radio Django, la rose des vents.
Et ce soir, une rose des vents littéraire, puisque nous parlons notamment de construction identitaire grâce au livre « L'âme meurtrie d'Anouk, nos identités tronquées ». Ce roman souligne la difficulté d'assumer nos appartenances multiples et il interroge la question de l'acculturation. Alors Daniel, ce phénomène semble concerner plutôt les personnes qui migrent ou qui s'expatrient.
En effet, Fabien, en sociologie ou psychologie, ce terme acculturation désigne le processus d'adaptation d'un individu ou d'un groupe venant d'ailleurs à une culture locale, le conduisant donc à abandonner partiellement ou globalement des éléments de leur propre culture. Cependant, il paraît important de souligner que les conditions d'acculturation peuvent varier selon les contextes historiques dans lesquels en fait, on pu ou encore où sont encore observés ces phénomènes. Sous la colonisation, on parlait d'acculturation forcée. L'assimilation est aussi une forme d'acculturation obligée. Et l'intégration, avec des guillemets, pourrait s'entendre comme une forme d'acculturation choisie.
Alors Daniel, La Rose des Vents a déjà traité et abordé ce sujet de différentes manières. Qu'est-ce qui fait la singularité du livre dont nous parlons ensemble ce soir ?
La démarche de l'auteur, qui met en perspective tout le questionnement intérieur, les étapes de réflexion de ce personnage principal, Anouk, qui tente de démêler les chevaux en fait, de ces identités multiples, et ce au prisme de trois générations pour arriver à la conclusion que pour vivre heureux, il faut se réinventer et peut-être s'acculturer.
Et pour en parler ce soir, nous avons le plaisir de recevoir Pul Chérif Huppo. Bonsoir.
Bonsoir.
Bienvenue sur Radio Django. Vous êtes né dans la région du Soleil Levant, à l'est du Cameroun, et vous êtes installé en Suisse depuis une dizaine d'années. Vous êtes formé à la Haute École d'études sociales et pédagogiques de Lausanne, et vous êtes titulaire d'une licence en sociologie communication obtenue à l'université de Chang, au Cameroun. La compréhension de l'humain vous habite, elle nourrit vos activités comme votre plume. Coach en intégration, bénévole pour la coordination Asile Migration Riviera, vous profitez de votre temps libre pour écrire et publier en juillet 2018 ce roman « L'âme meurtrie d'Anouk, nos identités tronquées » publié par Eddy Livre, et ce en juillet 2018. Pul Chérif Huppo, expliquez-nous dans quel contexte est née l'envie d'écrire ce livre.
Alors, en accompagnant des jeunes issus de la migration subsaharienne qui peinaient à s'identifier à l'histoire suisse, faute de personnages historiques qui leur rappelaient un petit peu leur apparence physique. Donc, pour moi, il était un petit peu important d'aborder ce sujet-là aussi, de leur permettre de questionner leur chemin identitaire.
Pul Chérif, est-ce que vous auriez eu la même impulsion pour écrire ce livre si vous étiez resté au Cameroun ?
Alors, elle aurait sans doute été déclinée vers les enjeux de tribalisme qui sont en train de monter au lendemain des élections présidentielles qui se sont passées de manière pas tout à fait
honnête.
Voilà, c'est le mot. Il faut le chacha. Donc, je pense que c'est assez aberrant de voir des Bantous accuser leurs cousins Bantous soudanais d'être moins légitimes de vivre dans un espace de même espace géographique pour des enjeux politiques qu'ils maîtrisent à peine ou pour par opportunisme. Donc, je pense que ça aurait été tourné vers ça.
On se rend compte que finalement, les questions identitaires en fait, se posent sur tous les continents. Mais il serait intéressant aussi de savoir ce qui, dans le paysage suisse, vous a donné cet élan.
Alors, je pense que l'ai un petit peu introduit. Il y a aussi cette difficulté que les jeunes ont de s'adapter,
de s'identifier,
et aussi cette assimilation de façade qui se vit avec des jeunes qui donnent l'impression de s'identifier au paysage suisse culturellement, mais le fond de façade, quand ils viennent au cabinet ou quand on les rencontre dans les foyers, on voit bien qu'il y a ce mal-être là, ce souci, et aussi c'était l'opportunité de donner un espace à des gens qui ont fait ce chemin identitaire de pouvoir s'identifier et aussi de pouvoir mettre des mots là où ils n'ont pas pu.
Ce qu'on va découvrir en fait avec le premier chapitre justement de ce très beau livre, ce qui sera intéressant, c'est de comprendre en fait qu'au travers de l'histoire familiale d'Anouk, vous présentez en fait trois générations.
Oui.
Chaque génération, on remonte à celle du grand-père, connaît déjà un phénomène d'acculturation. Est-ce que vous pourriez nous expliquer déjà ce qui s'est passé avec ce grand-père, ce qui a influencé l'histoire du père et ensuite l'histoire d'Anouk.
D'accord. Alors, tout d'abord, j'ai choisi de partir du grand-père, en passant par le père pour en arriver à Anouk, parce que je voulais mettre le lecteur tout de suite face à l'illusion d'une identité unique et aussi à la difficulté d'une culture figée dans le temps. Donc, en fait, ce qui se passe avec le grand-père, c'est que lui, étonnamment, dans la période coloniale, va plutôt entamer une acculturation choisie en renonçant à ses rites pour embrasser les rites judéo-chrétiens qu'il va transmettre à ses enfants. Et puis, venant d'un milieu très modeste, il va saisir cette opportunité pour sortir ses enfants d'un certain cadre social hein, où il y avait pas mal de manque matériel. Et ses enfants vont saisir cette opportunité, ils vont émerger, ils vont embrasser complètement la culture occidentale, en tout cas celle déclinée par le colon sur le terrain. Et il va complètement à embrasser cette identité qu'il va transmettre à ses enfants, mettant de côté son identité culturelle à lui.
Son histoire.
Voilà.
Et ensuite, on parle de l'histoire donc, de Pierre, du papa,
voilà.
Qui lui est également confronté au même processus, où là, on est en fait dans une division plutôt religieuse et identitaire, où il décide d'occulter finalement qui il était. Et il ne transmet rien à ses enfants.
Non, il ne transmet rien parce que, en fait, suite à une histoire familiale assez complexe, où il va, sa sœur va être donnée en mariage, sans qu'il ne soit informé, ni ne sachant où elle a été, il va vivre cet événement de manière assez violente, il va renoncer, il va quitter son terroir, aller s'installer ailleurs, renoncer à son identité et choisir de ne pas transmettre cette histoire à ses enfants. Il va nourrir la culture de ses enfants en s'appuyant sur les préceptes du colon et puis les préceptes religieux. Eux, ils vont l'embrasser parce que ça va leur permettre de nourrir leur culture. Et puis, ils vont la transmettre. Mais ils vont la retransmettre en occultant encore davantage parce que lui, il va entamer le chemin, mais en transmettant sa langue maternelle. Mais son fils, Paul, lui, il va occulter la langue maternelle. Donc, il va être dans une transmission, il va se rapprocher un petit peu du colon dans son idée de transmission de valeurs.
Il y a un très beau passage dans le livre où, justement, en fait, vous parlez de ces barrières. Parce que justement, les enfants de Paul, en fait, vivent reclus, peut-être un peu loin, en fait, de certains quartiers défavorisés. Et ça, vous l'expliquez très bien, en fait. Ça montre que, quel que soit le pays dans lequel on vit, on peut s'acculturer. Mais ce qui sera intéressant de comprendre, c'est que finalement, quelles sont les conséquences de cette acculturation, que l'on soit en Afrique, en Asie ou en Europe? Quelle incidence est-ce que ça a sur la transmission familiale?
En tout cas, il y a une perte de repères, il y a une sorte de... En tout cas, pour le cas d'Anouk, elle tourbillonne sans axe. On parle dans sa construction identitaire, il y a un espace où elle ne sait pas qui elle est, à quoi appartenir. Parce que son père, à travers son emploi, est amené à voyager à l'intérieur du pays. Et puis, dans un pays où on vit dans plusieurs... Il y a plusieurs cultures, il y a plusieurs, on va dire, codes sociaux. Donc, à chaque déplacement, ces codes varient. Et eux, ils sont un petit peu mis à l'écart parce qu'ils évoluent dans des quartiers résidentiels où c'est des gens d'origines diverses et ils se nourrissent comme ils peuvent. Mais il y a cette quête-là, cette quête d'assises. Il n'y a pas d'assises, finalement. Ils sont en train de tourbillonner. Après cette confrontation, elle va essayer de questionner un petit peu le chemin de son père et celui de son grand-père.
Mais ce qui est étonnant, c'est que quand on vit en Occident, en Suisse notamment, on ne se pose pas en fait ces questions sur le cheminement que pourrait vivre une jeune femme africaine. Et le drame d'Anouk, c'est qu'après ce voyage identitaire au Cameroun, l'héroïne s'expatrie en Europe et elle est confrontée à d'autres contradictions. Elle ne se sent ni noire, ni blanche, ni africaine et encore moins européenne. Elle peine à se situer et se définir. Mais quelle stratégie est-ce qu'elle a déployée pour pouvoir s'asseoir dans la société dans laquelle elle arrive?
Alors, elle a d'abord décidé de faire le ménage dans son passé, de pouvoir situer un petit peu la vie de son grand-père, de son père. Elle va être aidée par sa mère qui, elle, a gardé sa culture, qui va imposer de manière subtile cette importance d'assumer et de transmettre des valeurs familiales. Nourrie de tout ça, ça va constituer une assise suffisamment forte pour lui donner un peu d'énergie pour pouvoir questionner sa place en Occident. Parce que quand elle part de l'Afrique pour l'Occident, elle s'imagine arriver dans un univers de liberté, une liberté de soi dans sa particularité et dans sa culture.
Mais qu'est-ce qui pourrait être le plus choquant pour Anouk quand elle découvre qu'effectivement, je veux dire, l'Europe était pour elle un mythe et qu'elle doit déconstruire au fil du temps?
Le plus difficile pour Hadouk a été de se rendre compte que son grand-père et son père avaient entamé un chemin d'assimilation à un Occident qui la percevait comme quelqu'un de différent. Elle avait cette illusion en arrivant en Occident que l'histoire africaine était autant connue en Afrique que l'histoire européenne est connue en Afrique. Elle réalise que dans les livres scolaires, il n'y a pas beaucoup de place qui est faite à cette histoire qui part de la colonisation et du néocolonialisme. Et donc, elle vit un choc. Elle se dit, mais s'ils ont renoncé à tant pour s'identifier à d'autres cultures qui ne font pas assez de place à ce qu'elle est, comment s'en sortir ?
Mais comment fait-elle pour répondre à ce mensonge ? Parce qu'elle a dû développer une stratégie pour pouvoir faire sa place dans la société suisse.
Évidemment, elle essaie de dépasser ses préjugés. D'abord, elle se rapproche de sa communauté, mais après, elle dépasse cette étape parce qu'elle refuse l'idée selon laquelle c'est parce qu'elle vient d'ailleurs qu'elle n'a pas sa place dans la société. Elle refuse cette idée-là. Alors, elle décide de poser ses valises et d'observer la communauté dans laquelle elle vit. Elle observe les gens avec qui elle vit et de se dire, voilà, je vais entrer dans les livres d'histoire pour prendre conscience de la culture de l'autre, pour essayer de comprendre qui cet autre est. Et de pouvoir trouver ses repères et trouver des nouveaux éléments qui la permettront de continuer sa construction identitaire.
Et finalement, quand on fait tout ce cheminement-là, qu'est-ce qu'il y a de si différent entre soi et les autres ?
Pas grand-chose. Elle se rend compte que l'humanité est finalement la même. Elle se décline simplement de manières différentes. Les enjeux de spiritualité, de cohésion sociale sont les mêmes partout, mais elle se décline différemment. Elle réalise que même la solidarité qu'elle croit seulement présente sur son continent, elle est présente en Occident, mais elle est simplement institutionnalisée, ce qui est moins perceptible. Elle se rend compte que la société ne s'est pas limitée à... La société a étudié la question suffisamment pour l'institutionnaliser, alors que dans son continent, c'est des solidarités un petit peu spontanées comme ça qui se font. Ça la rassure et ça la conforte, finalement.
Mais est-ce que vous pensez que dans nos sociétés occidentales, nous sommes aujourd'hui prêts, face à tous ces brassages culturels, finalement à appréhender l'homme dans sa dimension universelle.
Universelle. Alors, c'est vrai que dans le contexte de mondialisation actuelle, avec les déplacements de culture et des êtres qui sont assez rapides, il y a une sorte de frustration, de crispation comme ça, qui pourrait freiner cette ouverture à l'autre. On voit dernièrement avec le cas du Brésil, pour ne citer que ce pays-là. Mais au quotidien, on se rend bien compte, une fois qu'on a acquis, quand on a intégré l'écho de l'autre, la différence d'apparence devient secondaire.
Mais c'est toujours ce qu'on dit, vous n'avez pas le sentiment que c'est un alibi ? Qu'en fait, que la couleur ne serait pas un alibi pour dire non à l'autre ? Parce qu'on se rend bien compte, je veux dire, notamment dans les médias, que quand on parle de racisme, c'est parce qu'il y a une distinction déjà physique à la base. On repose sur le physique, en fait, pour marginaliser certaines personnes ou sur une religion.
Alors, il faut faire la différence entre le politique et l'homme du quotidien. Donc, le politique a des enjeux, il y a des partis qui sont représentés, c'est pas la même chose. Mais quand on vit dans un quartier, quand on habite, il faut observer les gens du quotidien. Comment je suis avec le voisin, comment je suis avec le boulanger, comment je suis avec la dame du supermarché. C'est ça qui nous donne un indicateur fiable et fort sur ce rapport au racisme, en tout cas, si on peut dire ça.
Donc, en vous écoutant, finalement, ce qui crée des clivages, ce serait peut-être les politiques et non les simples citoyens.
Ça peut être un risque. Il faut simplement faire la différence entre ce qu'on vit et ce qu'on entend.
Un dernier mot sur les conseils en fait, que vous pouvez offrir aux personnes que vous rencontrez dans le cadre de votre atelier et vos rêves, peut-être, par rapport à cette question d'intégration.
Alors, l'intégration est faite pour vous. Bravez les a priori et vous verrez, vous trouverez votre place. C'est ce que je peux dire.
Poulcherifo, dernière question, peut-être, comment préserver son héritage culturel ? Vous avez eu la solution miracle.
Alors, je ne pense pas. Je pense que la transmission des valeurs familiales sont importantes, parce que les enfants, ils posent des questions à leurs parents, ils veulent savoir qui étaient leurs parents. C'est pour ça que je me suis arrêtée à troisième génération. Ce qui est surprenant, c'est que les enfants demandent souvent à leur maman ou à leur papa, ben, comment était ton père, comment était ta mère ? Donc, c'est important de leur raconter cette histoire-là. Une fois qu'ils sont ancrés, qu'ils ont une histoire familiale qui a été racontée et transmise, ils s'envolent comme des oiseaux.
C'est une belle conclusion qu'on retiendra. Merci beaucoup, le shérif Huppo. Une belle soirée à vous.
Merci.
On retiendra qu'en considérant l'ère du temps et la question des migrations, il paraît important de revisiter ce sujet des appartenances multiples. L'histoire d'Anouk permet ici, à plusieurs égards, de comprendre les enjeux de l'acculturation et des intégrations d'un individu au sein d'une société donnée, Daniel.
En effet, reconnaître, apprivoiser et assumer ces multiples appartenances exige une prise de distance pour finalement vivre ce que l'on est. Et des mots chers à notre invité.
Finalement, être acculturé, n'est-ce pas devenir l'autre culturellement, sociologiquement et idéologiquement ? Grande question qu'on a tenté de répondre en partie ce soir avec notre invité, Pulcherie Feuille pour encore. Merci à vous d'être venu.
Merci à vous d'avoir invité.
Une interview à retrouver sur notre site django.fm. Notez que le livre « L'âme meurtrie d'Anouk, nos identités tronquées » dont on parlait ce soir est publié aux éditions Edilivre en juillet 2018 et il est distribué par la librairie Payot où forcément vous pouvez acheter cet ouvrage. Merci beaucoup à vous Daniel pour ce sujet.
Merci.
Une très belle soirée. Voici un peu de musique. La Coutille avec cette chanson Water Not Kept Enemy pour clore cette rose des vents de ce soir, un choix de notre invité du jour évidemment, comme chaque semaine. Ce soir c'était Paul Chéri Feuillepot qui a choisi cette chanson de Fela Kuti. 18h14, on va prendre les chiffres dans le bon ordre, 18h41, 7h-20 sur Radio Django.